vite d'ouvrir vos Bibles à ce 77e psaume que j'ai décidé de donner une stratégie pour la vie chrétienne. C'est probablement la dernière fois qu'on va prendre les psaumes. On a commencé au début de l'été à cause du verset sur le tableau, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis, tellement ils m'ont nourri mon âme que j'ai prolongé un tout petit peu. Probablement c'est le dernier. Et combien je veux que ça soit, que ça nourrisse votre âme. Et pour, avant de commencer, je veux que nous prions encore une fois. Père, tu connais le cœur de chacun. Tu connais les fardeaux. Tu connais chaque enfant de Dieu dans cette pièce et à travers le monde. Et nous avons vu des versets sur des épreuves qui attristent, des afflictions qui devraient nous faire glorifier, parce que nous savons certaines choses. Mais Seigneur, nous savons beaucoup de choses sans que nous réfléchissions jusqu'à ce qu'ils nous changent. Pour la plupart de nous, ce n'est pas une question d'information dans beaucoup de cas, c'est une question d'utilisation, de pratiquer. Mais comment pratiquer ce qui est froid et ce qui ne font pas bouger? Père, viens à mon secours, parce que j'ai envie de pouvoir partager quelque chose de ta parole qui peut encourager, qui peut donner espérance à la personne qui a le moindre d'espérance dans cette vie. Que ce soit un jeune ou un âgé, ou une femme ou un homme, ou qui que ce soit, un étudiant, un professionnel, que ce soit qui que ce soit, il n'y a aucune personne dans cette petite pièce qui n'a pas besoin d'espérance, qui vient de toi, dans ce cheminement que tu nous as mis devant nous, chrétiens. J'ai besoin que tu me libères, Seigneur, dans mon esprit. J'ai besoin que tu me donnes simplement le désir et puis la clarté de présenter ce qui est dans ce psaume. Et nous te rendrons grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Amen. Amen. Comme nous avons déjà parlé plusieurs fois, les psaumes étaient le cantique, les collections de réflexions très souvent très émotionnelles de ceux qui traversaient la même vie que nous traversons et qui sont tombés dans les mêmes puits et abîmes que dont nous sommes tombés, et qui ont cherché de lumière aussi longtemps que nous avons cherché de lumière, et qui ont compris certaines choses au fur et à mesure pour cultiver une certaine stratégie pour vivre. J'étais absolument étonné quand j'ai réfléchi sur le fait que les évangiles et les épîtres sont vraiment pénétrés, imprégnés par les psaumes qui m'ont donné raison, qui m'a donné une raison d'être. Voilà pourquoi la première église primitive, pourquoi l'église primitive méditez sur les psaumes beaucoup, et méditez, réfléchissez, chantez les psaumes dans leurs réunions. Il existe des églises jusqu'à présent qui ne chantent que les psaumes, et avec une assez bonne raison. Nous avons tendance un peu dans notre époque de penser que l'Ancien Testament a cédé sa place au Nouveau Testament. L'ancien système sacerdotal de prêtres, de sacrifices, n'était que futuriste, n'était qu'une image, n'était que symbolique sur quelque chose qui était réel. Et c'était la personne de Jésus-Christ. Et cette première église primitive visait Jésus, voyait Jésus, touchait Jésus, regardait dans ses yeux, savait la couleur de ses yeux. Nous ne savons pas, c'est pas marqué. Ce n'est pas important, mais ils savaient les choses. Les petites déformations sur son visage, comme chacun de nous, etc. Ils le connaissaient. Ils l'ont vu rentrer au ciel, les disciples qui restaient. Et pourtant, ils chantaient les psaumes. Ils réfléchissaient sur l'Ancien Testament, pas comme quelque chose secondaire dans le passé, mais comme une chose qui, enfin, ils étaient accomplis. Ils voyaient des choses après la croix que des gens avant la croix ne voyaient pas. Et puis ils sont rentrés dans les psaumes et chantaient les psaumes, sachant maintenant ce que David et Asaph, c'est Asaph, pas David, qui a écrit le psaume que nous avons déjà entendu ce matin. Et eux, ils savaient Christ, ils ne voyaient que Christ dans chaque page de l'Ancien Testament presque. Ils pouvaient voir Christ beaucoup plus facilement que nous. Enfin, qu'est-ce que faisait Jésus-Christ sur la route de Emmaüs quand il était avec ces deux hommes? Quand ils étaient absolument abattus et déçus, Jésus, et ils ne le reconnaissaient pas comme Jésus, a ouvert les psaumes, il a ouvert la loi, et il a ouvert les prophètes pour le faire comprendre la connexion qu'ils viennent d'expérimenter, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais après qu'il était parti, ils disaient, c'est pas vrai. N'est-ce pas vrai que nos cœurs brûlaient à l'intérieur, pour la première fois, les deux choses se connectent. Et ils restaient connectés, et ils étaient électrifiés par cette connexion, qu'ils ne pouvaient pas ne pas regarder l'Ancien Testament. Ils n'avaient que ça. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ça n'existait pas. Ils n'avaient que l'Ancien Testament, et ils n'avaient que les psaumes à chanter, mais ils voyaient autre qu'avant. Ça leur a doublé l'envie pour qu'ils regardent dans les psaumes, pour qu'ils voient des choses qu'ils ne voyaient pas que en figure et que à travers une image, que à travers un miroir. Ils n'ont pas compris, mais après, ils ont compris beaucoup plus de choses. Les psaumes sont devenus beaucoup plus chers pour eux que jamais avant la croix. Et ça, c'était la chose, l'objet de leur louange et de leur méditation, juste pour vous montrer. Hier soir, je faisais un petit exercice. Regardez, les psaumes et les... Ici, tous les psaumes cités dans le Nouveau Testament. Ici, le passage dans le Nouveau Testament, où les psaumes étaient là. Ici, deuxième page, les psaumes cités dans le Nouveau Testament, le passage où les psaumes se trouvent. Troisième page, tous les psaumes cités dans le Nouveau Testament, les passages dans le Nouveau Testament où ça se trouve. J'étais vraiment étonné, je n'attendais pas autant que ça, à peu près 123 places dans le Nouveau Testament et parfois deux ou trois versets, ou plus, où les psaumes sont cités et interprétés dans la lumière de ce que nous comprenons maintenant. C'était une chose révélatrice pour moi, la première fois que j'avais fait ça, je savais que les psaumes étaient là, mais pas autant que ça quand même. Vous pouvez faire la même chose. Oh, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Internet qu'on n'a pas pu faire si facilement qu'avant. Ça, c'est merveilleux, dangereux en même temps. Prendre tout cela à la légère souvent. Mais ce que je voudrais dire, la première chose que je voudrais dire, excusez-moi qu'il y a la deuxième qui est là aussi, mais la première chose que je voudrais dire, que vivre la vie chrétienne veut dire vivre sur la parole de Dieu. Et ça, c'est dans notre texte. Mais ça, c'est à travers toute la parole de Dieu. Vivre la vie chrétienne est nécessaire pour vivre la vie chrétienne et vivre sur la parole de Dieu. Aucune autre part. La parole de Dieu dans le cœur, dans la tête, qui contrôle, qui dirige, qui canalise, qui arrange, qui ajoute, qui enlève ma manière de me présenter devant le patron demain à 9h, ma manière de faire mes devoirs à classe, ma manière de ne pas regarder à gauche ou à droite pour tricher sur un examen, ma manière d'étudier, ma raison d'être d'étudier, sachant que toute connaissance est connectée à la réalité de Dieu lui-même, toute connaissance, dans n'importe quel domaine. Quelqu'un a bien dit, il n'y a aucune différence entre le sacré et le séculaire pour le chrétien. Tout est sacré. Parce que il est l'enfant de Dieu. Commencez quoi faire rien que dans la parole de Dieu. Rien que dans ce livre que nous mettons ici pour annoncer le fait que la parole de Dieu est une chose prime, est la chose primordiale, matérielle. Dites que Christ... Non, Christ est primordial. Oui, Christ est primordial, mais je parle matériellement. Dans cette salle, matériellement, cette chose ici et dans votre main est la chose primordiale. Jésus, oui. Qu'est-ce que nous connaissons de Jésus à part ça? Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu à part ça? La nature, oui, il est marqué. Dieu se révèle dans sa nature. Il n'y a personne qui ne connaît pas Dieu. Romains 1 dit, il n'y a personne qui ne connaît pas Dieu. Tous connaissent Dieu. Mais il n'y a pas suffisamment d'informations dans la nature pour nous traiter le problème de notre manque d'appréciation pour ce Créateur qui a créé les choses, qui nous fait émerveiller. Quand je suis monté ce matin, pour petit déjeuner, j'ai vu le soleil qui se lève, et puis ce matin, exceptionnellement, et ça arrive assez souvent, coucher le soleil ici, lever le soleil ici, c'était absolument merveilleux. Comme quelqu'un a dit, si nos cœurs étaient vraiment tournés vers la parole de Dieu, on serait comme des gens qui disent, waouh, Seigneur, tu as fait encore aujourd'hui? Oui, il a fait ça hier aussi. Il a fait ça avant hier. Il a fait ça avant hier. Il a fait ça avant hier. Il a fait ça pendant les... Combien de temps? Mais il a fait ça aujourd'hui. Mais oui, c'est normal. On sait qu'on a du mal à ne pas être comme ça. On sait qu'il y a un sens de gravitation qui nous fait descendre vers le bas et jamais vers le haut. Parce que nous sommes nés dans le péché et nous devons ramer en tant que chrétiens, justifier une fois pour tout, sanctifier pratiquement, ramer celui qui ne rame pas pour se forcer en avant sur la parole de Dieu, recule Il n'y a pas de neutre. Et donc, la parole de Dieu est la seule source de tout ça. La seule source. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son sang, 19, 9, en gardant toujours la parole de Dieu. Ta parole, je garde dans mon cœur, afin que quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la vie chrétienne veut dire vivre sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça c'est bon français ou pas, mais la vie chrétienne est en égalité avec vivre sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre la parole, la vie chrétienne autrement. Impossible de vivre la vie chrétienne sans que la parole de Dieu soit imprégnée dans le chrétien. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous devrions lire la parole de Dieu tous les jours, régulièrement, on a envie ou on n'a pas envie, nous devrions le faire. La vie chrétienne est vécue sur la parole de Dieu écrite. Je dois ajouter ceci. Et donc, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne méditons pas la Bible, si nos délices ne sont pas sur la Bible, nous allons être des chrétiens faibles. Nous allons facilement tromper par toute espèce de doctrine qui est à la mode. Si vous avez lu l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, vous avez dit qu'il y avait différentes époques où il était à la mode progressivement de ne plus croire ce qu'on avait cru dans le passé, mais de croire ça autre. Et nous sommes dans la Renaissance maintenant, et nous ne voyons pas nos ancêtres, ils étaient dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière et nous pensons autres. Si ça s'accorde avec la parole de Dieu, la personne qui n'a qu'une interaction, je ne dis pas simplement connaissance, qui n'a qu'une interaction quotidienne avec la parole de Dieu, va tomber sur toutes les différentes modes. Il ne peut pas savoir autrement. Il va tomber par des séductions de ce monde. Et qu'est-ce qu'il va faire au temps de l'épreuve, le verset qu'on avait au début du culte? Qu'est-ce qu'il va faire quand les épreuves arrivent et quand les ténèbres viennent dans son âme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière. Et comme nous avons vu la semaine dernière, psaume 43, versets 3 à 4, qu'est-ce que le psalmiste faisait? Le psalmiste, la semaine dernière, savait quoi chercher, où aller, comment prêcher à son âme et quoi faire après. Est-ce que vous le savez? Ce psaume était merveilleux pour moi. Le psalmiste savait. Il était comme vous, absolument dans les ténèbres, dans le vide, mais il savait certaines choses qui devaient marcher. En tant que chrétien, on voit mal très souvent. On voit vaguement, mais on connaît des choses certainement. C'est une phrase que j'ai tombée dessus tôt ce matin. En tant que chrétien, on voit pas clair. Mais on voit certes certaines choses. Par exemple, nous savons que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Oui, mais dans ma situation, je n'arrive pas à faire connecter ce verset avec ma situation. Mais je sais que toutes choses concourent au bien. Il y a plein de nous savons dans la parole de Dieu. Et plein de choses que nous savons, il ne dit pas que nous savons, mais nous savons. Et nous allons toujours voir à travers un miroir, difficilement souvent. Mais il ne savait pas faire. Il savait qu'il était dans les ténèbres et qu'il fallait de la lumière. Pourquoi faire? Mais pour que cette lumière me guide. Il était là, ses ennemis étaient sur lui, les moqueurs étaient en train de de lui faire mal et de crier des insultes, etc. Ils étaient à la porte, mais il dit, Seigneur, mon problème, c'est ténèbres dans mon cœur. Donne-moi lumière. Donne-moi vérité. Quel me guide? Pas mon cœur. Quel me guide? Heureusement, ils sont dans mon cœur. Parce qu'il n'avait pas de smartphone avec son, la Bible dedans. Il n'avait même pas une torche pour lire la Bible. Il n'avait même pas une bougie. Il n'avait même pas la Bible. Il était ici. Il était ici. Et il savait que si la lumière me guide, elle va me conduire à la montagne sainte de Dieu et à ses demeures. Et si j'arrive à ses demeures, je serai devant l'autel de Dieu où je suis pardonné de tous mes péchés. Le sang, l'autel et le sang vont ensemble. Je suis pardonné de mes péchés grâce au sang. Ils n'ont pas compris le sang de Jésus-Christ. Mais les gens dans l'église primitive qui chantaient cette psaume, ils ont compris tout. Oh, combien était une plus merveilleuse psaume 43 après la croix qu'avant la croix. J'irai vers l'autel, c'est lui ma joie, c'est lui mon allégresse. Il savait comment se prêcher. Après ça, il dit, âme, t'arrêtes de me dire des mensonges. T'arrêtes de me faire tourner en ronde avec tes pensées. Tu m'écoutes, âme. C'est ce qui se passe. Pourquoi as-tu abattu mon âme? Pourquoi j'ai mis Dieu? Alors je te commande, je impose un ordre, âme. Espère en le Dieu que tu connais. Je te louerai mon salut. Et ça, c'est ce que le psalmiste avait dit, que nous avons vu la semaine dernière. Mais si la parole n'est pas dans le cœur, comment pouvons-nous faire ça? Si on peut mémoriser cette petite, progression qui était formidable, merveilleux, je ne vais jamais dire de la même manière, quand même. Mais, donc, vivre la vie chrétienne veut dire vivre sur la parole de Dieu sans avoir été de l'esprit dans nos têtes, dans nos cœurs, quand les jours ténébreux viennent. Nous ne trouverons pas la lumière. Dans les ténèbres, savait où était la lumière. Il tâtonnait un peu, mais toujours dans les bonnes limites qui, à chaque fois, le menaient de plus en plus vers la lumière. Et une troisième chose que j'aimerais dire, c'est que la vie chrétienne, de jour en jour, n'est pas une vie de triomphe constante. Mais je crois que c'était ça. Je crois que un vrai chrétien est une chrétienne qui, jour après jour, il est constant. Demandez à quelqu'un qui est célébré comme un des grands saints de l'Église si sa vie était constante. Oui, pour vous, avec votre règle ici, avec votre point de repère, mais pour lui, avec le point de repère dans la parole de Dieu, il y avait des moments où il plongeait de plus en plus dans le désespoir, parce que pour lui, plus qu'il voyait combien il était pécheur, plus qu'il voyait la grande distance qui existait entre lui et le Seigneur, et s'il n'était pas sage, s'il ne savait pas ce qu'il savait, il aurait été entièrement bousculé et abattu, qui ne pourrait jamais revenir, mais il peut revenir parce qu'il sait ce qu'il sait et il va revenir. Mais l'angoisse à travers, il passe, est pire que probablement aucune angoisse que vous avez jamais compris vous-même. Probablement. Je ne connais pas votre cœur. Je ne connais même pas mon cœur. La vie chrétienne est une vie qui est vécue le jour un jour, mais pas dans le triomphe. Souvent. Enfin, ici, ce que nous allons voir maintenant, ici, dans la Bible, ces questions est là où la vie chrétienne est vécue de jour en jour. Le psalmiste est venu jusqu'ici. Six questions. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? David, tu n'es pas monté à la fin de la phrase. Six questions. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Quelle est la réponse? Tu connais la réponse, il connaissait la réponse, ici, mais ne ressentez pas ça ici. Hein? Ne serait-il plus favorable? Le Seigneur ne serait-il plus favorable? Hier, j'ai prié pour la faveur du Seigneur, et avant, hier, j'ai prié pour la faveur, et jusqu'à longtemps, je ne reçois pas son faveur. Bon, ça, c'est à débattre, mais pour l'instant, c'est pas la peine de débattre. Ils ressentent ce qu'ils ressentent. Et toute la logique du monde, tout ce que vous allez de dire, ne va pas changer ses sentiments parce qu'il est mal. Sa bonté est-elle jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Je ne peux plus. Est-ce que c'est vrai ça? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Et pour finir, le pire. Je dis, voilà ma souffrance, voilà mon affliction, voilà ma faiblesse. Et différentes traductions emploient ces trois différents mots que je viens de dire. Ma faiblesse. Oui, tu es fort ici, je suis fort ici, je suis fort ici, mais je suis faible dans ce domaine. Ma faiblesse est ceci, c'est que ta main, la main du Très-Haut, n'est plus la même. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? On a les mêmes pensées, n'est-ce pas? Les sentiments que Dieu n'est plus favorable, les sentiments que sa bonté a cessé, les sentiments que sa promesse n'est plus fiable, les sentiments que sa compassion est enlevée, le sentiment qu'il est un Dieu capricieux qui change. Je devrais, avant d'aller plus loin, je devrais dire, par rapport à ceci, question, oh, je l'ai mis ici en bas, il y a, je ne sais pas si c'est le bon français non plus, mais il y a de la sympathie avec ces six questions dans chaque cœur ici. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans chaque cœur qui résonne et qui dit « Amen, méchant ». Vous murmurez. La preuve, vous savez que toutes choses concourent au bien. La preuve, vous savez qu'il faut regarder comme un sujet de joie des épreuves qui nous arrivent. Même cette dernière épreuve qui n'a pas de raison, qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte, vous savez ça. Et puis l'incrédulité est là. Pas comme l'année dernière, merci Seigneur. Il est là. Est-ce que tu crois, Jésus disait à cet homme, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il y a six questions qui tournent. Ah non, 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 vous dites, moi je ne dis jamais ça. Ah non, non, bien sûr, vous ne direz jamais ça. Vous êtes plus poli que ça. Hein? Vous ne le direz jamais ça devant le trône. Mais vous oserez démontrer ça dans votre attitude, dans vos actions, dans vos manières de condamner Dieu. C'est comme je jugeais devant le tribunal de l'homme, pas l'homme devant le tribunal de Dieu. Ah, ça c'est notre Mes amis, c'est ici la bataille, la lutte de 2016. On est en septembre, début de l'année scolaire. C'est ici où la lutte chrétienne tourne. Même pour les grands saints, même plus pour les grands saints. Et pour chaque chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais au moins ça m'encourage du fait qu'il y a des gens qui je ne suis pas seul dans mon abîme. Il y en a d'autres. Et la vie de sanctification, c'est de diminuer ça ici. La sympathie de mon cœur qui harmonise avec ça, qui résonne, qui dit un diabolique amen. Que Dieu est comme ça. Mais il existe dans mon cœur, il existe dans votre cœur. Et nous en avons besoin. Et nous savons, oh la grâce et la miséricorde, ça nous aide à mieux comprendre la grâce. Notre compréhension de grâce et miséricorde est proportionnelle de notre compréhension et reconnaissance et admission sur la dépravation de moi, pas juste théologiquement sur cette rayon ici que je connais, je peux lire Robert est pervers. Oui, je le sais, tout le monde est pervers. Ah, je ne réalise rien que ce qui est sur le rayon là-bas. Mais ça, c'est nous. Et Dieu nous permet de nous voir des questions comme ça. J'ai pensé à cette idée par rapport à cette question. La sanctification prend cette phrase et tourne ces six questions de plus en plus en questions rhétoriques. Qu'est-ce qu'une question rhétorique? Une question rhétorique, c'est où la réponse est déjà dans la phrase. De poser la question, c'est de répondre à la question. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Bien sûr que non. Hein? A-t-il oublié de montrer sa compassion? Bien sûr que non. La réponse, sans hésitation, chacun de nous savons ici. Et crachons ici. Mais au fond du cœur, nous n'avons pas croyant. Nous sommes des croyants ferveurs théologiquement, mais nous sommes des athées pratiquement. Et nous avons les preuves tous les jours. Si nous pourrions admettre que je suis capable d'aller jusqu'au bout et poser cette question devant la face de Dieu, qui lit le regard sur mon visage, qui lit ma manière de me présenter, qui lit la façade derrière laquelle je me mets devant les hommes, mais pas devant Dieu, qui lit tout, qui comprend tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Regardez en verset 14. Je le mets ici, vous regardez là. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Quel prodige? Le prodige que j'ai tourné dans ma tête tout à l'heure. Il va le dire, on va le voir. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, ô Dieu. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, mon Dieu. Ton peuple. Qui c'est ton peuple? Les fils de Jacob et de Joseph. Ah, quand je vois la nature, les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes, peut-être il parle de la... Le passage de la mer Rouge qu'il avait médité, les abîmes sont émus, les nuages versent de l'eau par torrent, la tonnerre retentit, les nues, les flèches volèrent de toutes parts. Et ça continue jusqu'à la dernière phrase avec la nature, mais la dernière phrase, et Père, tu as conduit ton peuple comme un troupeau, et une version disait caché dans les mains de Moïse et Aaron. Ils ne savaient pas que Moïse et Aaron étaient choisis par Dieu avec toute leur faiblesse, avec tout leur blocage, avec tout leur arrière-plan, avec tout leur préjudice, avec toute leur incrédulité, et nous lisons tous les deux, Dieu a caché son peuple à travers 40 années dans le désert. Est-ce que c'est la même personne qui parle? Est-ce que cette personne et cette personne sont la même? Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Parce que il savait déjà. Même quand il posait ses questions, il savait déjà la réponse. Je ne sais pas quelle étape de sa vie spirituelle. Comme j'ai dit la semaine dernière, la vie spirituelle est comme ça. Mais pas comme ça, mais comme ça. On avance, où il y a des eaux profondes que je n'ai pas connues la dernière fois. Mais on avance quand même vers le haut. Je ne sais pas s'il est ici ou s'il est ici ou il est ici. J'ai même du mal à penser comme ça. Peut-être qu'il ne faut jamais penser comme ça. Parce que l'ironie de la situation, le paradoxe, c'est que la personne qui est le plus saint est la personne qui se voit le plus vil. Et donc, parfois, il traverse des choses beaucoup plus profondes que la personne qui se voit pas si mauvais que ça. Je ne suis pas parfait, mais je suis bien sûr pardonnable. Oh oui, il y a cette bêtise, etc. Ça, c'est un peu sérieux, mais bon. En gros, je suis pardonnable. Je ne peux jamais arriver aux portes célestes et Dieu dit, non, tu n'es pas pardonnable. Pas pardonnable? Si, si, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, oui, d'accord, mais écoute. Il y a plein de gens comme ça dans l'église. Aujourd'hui dans cette salle, sans doute. Et vous dites, mais Robert, je ne comprends rien de ce que tu dis. C'est pas possible. Je ne suis pas troublé comme ça. Ça ne m'arrive pas. Apparemment, je suis plus fort. Apparemment, il y a des gens qui vont sortir de cette salle et d'autres salles qui pensent, je suis un chrétien très fort par rapport, parce que je n'ai pas passé à travers ça. Peut-être vous devez prier que Dieu vous permette de passer à travers ça. Il a laissé passer des gens régulièrement. Les témoignages de l'histoire confirment et documentent que la vie chrétienne normale est vécue ici. Mais ce que David, Asaph savait, c'était versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Je me rappellerai, je mets le Darby ici parce que j'aimerais, toutes les traditions sont partout avec ces mots, quatre mots que j'ai soulignés. Il y a trois mots hébreux qui sont là, il y a deux qui sont utilisés, un qui est utilisé deux fois, mais trois différents mots dans l'origine qui donnent différentes nuances à la même chose, mais en gros, ils disent. Ce que je ferai dans cet état, je vais me rappeler des exploits de l'Éternel. Je vais me souvenir des merveilles d'autrefois. Je vais méditer sur toutes tes œuvres. Je vais considérer tes hauts faits. Alors, notez premièrement que tous ces verbes sont une question de intention. Ce sont des verbes intentionnels. Des verbes intentionnels. Et ce n'est pas juste une pensée qui arrive, ah oh oui, c'est une bonne pensée. J'ai oublié tout ça. Bon, si vous avez une mauvaise mémoire, Facebook va vous aider parce que maintenant, Facebook vous donne des choses qui sont arrivées il y a 5 ans et on vous dit, oh, et il y a 5 ans, c'est pas possible. C'est pas des mémoires comme ça. C'est des mémoires où la tête est canalisée exprès avec un but déterminé qu'il ne va pas arrêter sa recherche jusqu'à sa mémoire se fixe sur quelque chose qui va changer son cœur. Parce que ce qui sait ici, le problème avec vous, moi inclus, qui ont été éduqués dans une famille chrétienne et qui ne connaissaient que, qui n'ont jamais vu une image où on était dans une église, et on n'a pas entendu la parole de Dieu, où il n'a pas encaissé la connaissance de la parole de Dieu. Il y a plusieurs comme ça ici. Et pour nous, c'est plus dangereux dans certaines choses, mais ça arriverait aux autres plus tard, de accepter les choses, de encaisser la connaissance, de étudier la théologie systématiquement dans la Bible, ce qu'on cherche à faire dans la classe biblique, de encaisser et connaître et pouvoir répéter devant les autres les vérités écrites de la parole de Dieu quand il n'y a absolument rien ici. Ça, c'était la stratégie de ce psalmiste quand il dit, qu'est-ce que je fais? Je me rappellerai des exploits de l'Éternel. Je me souviendrai des merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres. Je considérerai ces hauts faits. Je vais m'arrêter ma vie et considérer ces choses, dit le psalmiste. Vivre la vie chrétienne, c'est de vivre sur la parole de Dieu. Sans avoir l'épée de l'esprit et j'assume que vous savez de quoi je parle, Éphésiens chapitre 6. Le logos qui c'est la parole de Dieu, la Bible, les rémas qui sont les mots dans le logos, qui sont le même mot pour une petite épée qu'un soldat utilisait pour. Il avait une grande épée, pour la bataille plus large, il avait une petite épée. C'est le réma. C'est les rémas, les choses, les promesses, les versets bibliques, les vérités qui sont encaissées dans la tête pour qu'il puisse être le cœur puisse appeler à la tête en pleine nuit et faire tirer ses épées, ses rémas, pour qu'il puisse. Je me demande si. Combien de versets bibliques est-ce que vous avez dans votre tête? Je suis en train de partager avec quelqu'un l'autre jour. Je regarde plus que je prenne l'âge. Parce que quand j'étais jeune, comme certains de vous, j'étais toujours enregistré dans des programmes pour mémoriser des versets. Et 5 ans de suite, je suis allé à un camp chrétienne gratuite parce que j'ai mémorisé tant de versets par semaine pendant plusieurs mois. Je ne savais pas que j'étais en train d'encaisser des versets qui plus tard me serviraient de sortir de ma tête juste au moment propice quand j'avais besoin pour lutter contre une tentation ou quoi que ce soit. Mais comme tout le monde, vous vous dégradez encore. Il y a plein de gens, si vous avez plus que 30 ans, c'est pas la peine de vous inscrire pour gagner une médaille olympique, un coureur. C'est trop tard parce que votre corps, il commence déjà à se dégrader. C'est la même chose avec votre cerveau. J'ai entendu quelqu'un juste la semaine dernière qui disait, oh oui, j'ai repris mes études, mais c'était difficile au début parce que j'avais pas l'habitude de forcer ma tête de se canaliser. Il n'a pas dit tous ces mots, mais ça c'était l'idée. Je me suis éloigné un peu de l'éloignement et au début il m'a fallu rattraper, il faut que je revienne. Alors quand vous êtes jeune, cette personne. Et puis, elle va être plus âgée un jour. Et plus qu'elle prend l'âge, plus que vous prenez l'âge, plus que ce n'est pas aussi facile de faire rattraper des versets que vous avez pris dans votre jeunesse. Je constate même maintenant des versets que je connaissais très très bien, j'ai plus du mal à faire sortir de ma tête que quand j'étais jeune. Et franchement, bien que j'avais souvent parlé de la mémorisation de la parole de Dieu, je confesse que je n'ai pas été un bon pasteur envers vous. J'ai parlé de cela, mais théoriquement, je ne vous ai pas aidé dans un programme ou d'une manière pour que vous puissiez devenir des gens qui encaissent, qui répètent la parole de Dieu, même si c'est un peu routine ou perroquet en tout cas. Il y aura un moment quand votre cœur est là où il devrait être, où Dieu va utiliser ce verset pour vous donner exactement la réponse pour vous avez besoin en ce moment, pour vous donner exactement la protection contre telle ou telle tentation, qui vous donne exactement la direction que vous avez besoin entre deux choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou de magique, c'est juste jour après jour après jour, brique sur brique sur brique, grandissant dans nos connaissances. 2 Pierre 3, 18, dernier verset. De grandir dans la grâce et la connaissance de la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'épée. La vie chrétienne n'est pas une triomphe constante. La vie chrétienne est largement vécue avec le nez juste au-dessus de l'eau. En quoi vous risquez de noyer, mais vous n'allez pas noyer parce que vous grandissez dans la grâce et l'amour du Seigneur à travers la parole écrite de Dieu. Psaume 67 est une stratégie pour nous de vivre la vie chrétienne intentionnellement de jour en jour. Je suis absolument émerveillé quand je regarde le temps. C'est pas possible. Rapidement. Je rappellerai, je mets le hébreu simplement pour distinguer un sur un autre, se faire rappeler à l'esprit une recherche intentionnelle de mémoire, pas un acte passif, commence par se souvenir instamment à l'esprit, les œuvres du Seigneur, ces merveilles, dit-il. Je me souviens, il est sur son lit, il n'y a pas la Bible devant lui. Il n'a pas. La seule chose qu'il a est sa mémoire. Mes chers amis, vous n'avez absolument rien qui est plus précieux pour vous que de votre mémoire. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans votre mémoire. Vous ne pouvez connaître rien du tout sans une mémoire. Votre mémoire est la chose la plus précieuse cultivée à votre âge. Cette mémoire, par pénétrer dans la parole de Dieu, pour réfléchir les merveilles d'autrefois. Je rappellerai, ça c'est le premier, rappeler et souvenir, c'est le même mot. Se faire rappeler à l'esprit une recherche intentionnelle. Exemple. L'Exode, sortez d'Égypte, vous n'étiez pas là, c'est juste un petit mythe qui fait, oh non, c'est pas un mythe, on est chrétien, on connaît bien, on croit la Bible. C'est peut-être une réalité historique, mais c'est une réalité historique, c'est tout. Napoléon était aussi. George Washington était aussi. Ah, eux, ils m'intéressent quand même, ces deux hommes. Mais, plein de choses. Mais, ces choses sont là, Romains 15, 4, afin que nous soyons édifiés par réfléchissant sur des choses, la Pâque ange qui demeure, qui passait au-dessus, si on passait 10 minutes sur cet événement. En tant que juif, c'était facile. Mais de nouveaux chrétiens, ce côté de du quoi, qui repensait à ça, maintenant comprend ce que c'était, le sang sur la porte, C'était le sang de Jésus-Christ. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Nous sommes délivrés de la destruction, de l'enfer et même de nos péchés. La traversée de la mer Rouge, la réception de la loi sur Mont Sinaï, la conquête de la terre promise. Il fait un effort à ne pas oublier. Jacques 2, vers 1, 25, qui parle de, la, de celui qui regarde à la parole. Et il voit ce qu'il voit, et il est correct, mais il passe et il oublie. Et le sens du verbe grec « oublie », c'est un sens « il se fait oublier ». C'est-à-dire, il n'a pas envie de ne pas oublier. Et ça, c'est dangereux. Fasse un effort. Ça, c'est Asaph, David, employé le même terme. Lorsque je pense à toi sur ma couche, lorsque je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je repche toutes tes œuvres. Oh, connaissons-nous les œuvres sur quoi on médite? Oh, le Nouveau Testament a ajouté. Lui n'avait pas. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Nous sommes un peuple oublieux et Dieu a envie de nous rappeler. De nous rappeler. La méditation commence par se rappeler intentionnellement. Ce n'est pas comme font des transcendantalistes qui se vident tout. Et le but, ce n'est de se rappeler de rien. Ce n'est pas la méditation biblique. La méditation biblique est très intense, très intentionnelle. Très visé intellectuellement, 100%. C'est pour ça la prière. Ceux qui pensent juste laisser vider leur esprit, ils laissent l'esprit parler, ils comprennent mal les Écritures. Il n'y a aucun moment où l'intelligence est plus engagée avec la réalité que dans la prière, si c'est une prière biblique. La méditation commence par se rappeler, entraînant nos esprits. Les vérités et les louanges et les promesses de Dieu. Et puis le deuxième, traduit en français, méditer ou considérer. Josué 1,8, verset qui est souvent répété. Oh, que ce livre. Attends, Josué, qu'est-ce qu'il avait comme livre? À peine le Pentateuch, c'est tout. Peut-être même pas encore. Quelques-uns. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. David, début des psaumes. Deuxième verset. Mais qui trouve son plaisir. Je dis, la Bible, ça ne fait rien du tout. Oui, je connais beaucoup de choses, je suis allé à l'église toute ma vie, mais je lis la Bible. Je connais ça aussi. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il médite la jour et nuit. Quand je me souviens de toi sur mon lit, et que je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, le psalmiste a dit, excusez-moi pour les bêtises là. Pourquoi c'est une. Ça, c'est utilisé même dans le sens négatif. Le deuxième psaume, on a lu le premier psaume, le deuxième psaume dit, a le même mot, c'est le même mot en hébreu. Pourquoi c'est une lutte parmi les nations? C'est vaine réflexion, méditation, gay pride, réfléchi, déterminé, d'aller et de serrer la bouche dans le visage de Dieu. Pour dire nous sommes unis. Et il y a plein d'autres. Ils méditent ça. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Pourquoi tous les complots? Oui, j'ai mis trois différentes traductions. Le Louis II, le Darby, le Sommer. Penser, méditer, complot. Ô Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. D'autres termes, que les tons de l'intérieur de mon cœur soient acceptables à tes yeux, ô Seigneur. Oui, j'ai les mots qui sortent, mais il y a un cantique de vrai ou de pas vrai dans mon cœur qui encaisse des paroles du Nouveau Testament, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Point. Pas les psaumes, pas les hymnes, pas les cantiques spirituels. Chante à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Rapidement, musée, s'émerveiller, c'était le dernier mot utilisé en deux versets, trois mots hébreux qui disaient différentes nuances de la même chose. Réflexion profonde, murmurer, c'est souvent traduit murmurer. Murmurer à soi-même. Tu as ça dans ma tête, mais tu vocalises à toi-même quelque chose de préoccupant, qu'on ne pense qu'à ça. Se plaindre dans le négatif, il est utilisé négativement. Oh, combien on médite pour se plaindre, plutôt que être émerveillé par la grâce de Dieu, que nous soyons capturés, saisis par sa parole, que ma méditation de lui soit agréable. Je me réjouirai en l'Éternel. Je médite tes ordonnances. Fais, j'ai tes sentiers sur mes yeux. Oh, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Comment arriver à ce point? Comme le psalmiste qui prend la parole dans sa tête et qui muse. Il muse. Il a un plan pour terminer juste trois choses. Déterminer. On est vers la fin de septembre. Pendant cette année prochaine scolaire, sans absenter une seule journée, si possible. Trouver un temps. Je n'ai pas le temps. Trouver un temps. Je ferai quand j'ai le temps. Vous n'aurez jamais le temps. Personne ici n'a le temps. Parce que vous avez un ennemi qui oppose que vous ayez le temps. Vous avez une chair qui est contre ça, dégoûtée par ce que tu veux faire. Trouvez un temps. Dormez 30 minutes plus tôt pour que tu puisses lever 30 minutes plus tôt. Mais trouvez un temps. Vous n'allez pas le faire. Deuxième, trouver un lieu. Il n'y a pas de lieu. Trouver un lieu. J'ai lu il y a quelque temps Susanna Wesley. Donc ses deux fils étaient renommés dans le monde. Elle avait 16 enfants. À la maison, au même temps. Un bon disciplinaire. Une des disciplines qu'elle était vite établie dans la maison. Dans une petite maison à l'époque, une famille pauvre, son mari était un pasteur. Les enfants, quand ils venaient dans la cuisine et ils voyaient qu'il y avait une voile au-dessus de la tête, un drap, personne ne parle. Maman adore Dieu. Maman lit sa Bible. Elle trouvait un lieu. Et vous pouvez trouver un lieu aussi. Une troisième chose, trouver un plan. Il y a beaucoup de plans sur Internet. Le plan que j'utilise maintenant, pas trop bien, mais c'est un plan de 52 semaines de lecture biblique que je efface. Juste un plan. Et parfois, je ne l'utilise pas, je fais autre chose. Et vous n'êtes pas obligé de suivre le plan, forcément. Mais d'avoir un plan que si vous faites comme ça m'arrive souvent, je dois prier, je dois lire ma Bible, j'ouvre la Bible, mais quoi faire? Où lire? Et sans savoir, je clique sur Internet ou je clique sur un livre en théologie ou je fais quoi que quelque chose. Vous avez fait ça sur vous, je suppose. Ça exige quand même un plan intentionnel, un temps intentionnel, un lieu intentionnel pour que nous puissions remplir l'esprit, pour que petit à petit on devienne de moins en moins athée par rapport à ces questions. Et les questions deviennent de plus en plus rhétoriques. Et nous savons exactement où aller. Et nous pouvons attendre parce que l'amour attend. Et si la paix, si la joie ne reviennent pas tout de suite, on va continuer à réfléchir sur les merveilles de Dieu jusqu'à ce que ça revienne. Et si, hypothétiquement, ça n'arrive jamais, écoutez, moi je dis, le temps est très court. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, par rapport à ce que vous allez recevoir après, par la persévérance dans la foi, c'est merveilleux. Ça rend toutes petites les épreuves. Non, mais Dieu va faire. Il donne parfois des flashs de joie et d'espérance. Et cette petite flash de 5 minutes, ça vaut toute une année de la joie que j'ai eue dans le monde. Et de plus en plus, la joie revient. De plus en plus, mais ça ne serait pas constante jusqu'au ciel. Ce n'y serait pas constante jusqu'au ciel. La vie chrétienne n'est pas une vie de triomphe. C'est une vie de lutte vers le triomphe. Où on arrive à un certain triomphe qu'on n'a pas eu avant. Mais oh, comme il reste du temps, mais je ne me décourage pas parce que Jésus est là avec moi, ou je le ressente ou je ne le ressente pas. Mais il exige quand même pas une apathie, une passivité. Seigneur, si tu veux, changez-moi, il faut que ça vienne. Non, ça ne vient pas. La vie chrétienne n'est pas automatique. N'est pas automatique. Il faut qu'on décide. Une fois, je présuppose que vous êtes venu à la croix de Jésus-Christ. Vous êtes venu comme un pécheur qui ne mérite pas le salut du Seigneur. Et que vous avez cru que votre substitut est mort sur la croix pour vos péchés. Et vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Et à partir de ce moment, je suis une nouvelle créature en Christ. Je vais changer. Chaque jour aura ses challenges. Parfois, des jours de nuages. Mais nous savons où c'est le soleil. Il est juste derrière les nuages, quand même. Et nous le savons. Nous le savons. Nous le savons. Et nous réfléchissons. Céleste, nous te rendons grâce. Parce que ta parole que nous avons chanté tout à l'heure et nous allons rechanter. Ta parole est notre raison d'être matériellement. Nous avons des pages, nous avons l'encre sur papier pour lire. Et maintenant la disponibilité est devant nous tous. Viens Seigneur à nos secours, comme tu as promis. Nous devions ceux qui, au fur et à mesure, marchent vers le triomphe. Merci de nous avoir protégés ici, la preuve que tu ne nous as pas abandonnés.